Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Arcade High Podcast. Aujourd'hui, émission un peu spéciale, je n'accueille pas un mais deux invités. Bonjour à vous deux.
Bonjour,
bonjour.
Alors, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Messieurs, je vais vous demander de vous présenter.
Oui, moi c'est Thomas, actuellement data engineer au sein de la société Harmony. Pour faire un bref récapitulatif de mon parcours, initialement j'étais plutôt un parcours destiné à la communication, donc issu voilà d'un BUT et puis par la suite d'une école de communication. Et en fait très tôt j'ai souhaité me réorienter et en fait voir autre chose. Donc j'ai rejoint la société au sein du coup d'une POEI, une préparation opérationnelle à l'emploi individuel, dans un premier temps en tant qu'analyste développeur. Par la suite, en fait, de fil en aiguille est venu de nouveaux projets et de nouvelles ambitions qui sont nées au sein de la société. Et en fait j'ai rejoint du coup le pôle IA début d'année 2024, il me semble. Et de fil en aiguille, en fait, mes missions ont divergé jusqu'à du coup finir par devenir très récemment data engineer. C'était beaucoup plus de l'évolution en interne. En fait, petit à petit, j'ai constitué mon socle de connaissances dans un premier temps sur les langages propriétaires de la S400, donc RPG3, RPG4, que ce soit Colonnais ou Free, et également Control Language. Et en fait, par la suite, tout simplement, au sein de la société, on a trouvé que, enfin, on a estimé, si j'ose dire, que je pouvais tourner plus ou moins un petit peu en rond avec les tâches qui m'étaient attribuées avec le client pour lequel j'effectuais de la maintenance et de l'évolutif. Et en fait, très vite, on m'a positionné sur autre chose.
Ok, donc belle promotion en interne.
Oui,
Juste
effectivement.
parce que en tant que moi-même, quelqu'un qui est passé par la communication, qui aime faire ce genre de remarques, t'as dit AS400, pas bien. On dit
Oui.
BMI maintenant.
Oui, c'est vrai, c'est toujours un petit peu le tic de langage, j'ai gardé cette habitude.
Je passe de maintenant à notre deuxième invité, Sylvain.
Moi, c'est Sylvain Actépé. J'ai rejoint la société Harmony il y a 3 ans maintenant. Donc mon parcours, c'est un parcours un peu atypique, on va dire. Par défaut, j'avais fait de l'informatique au tout début de ma carrière, mais j'ai ra rapidement changé de voie. Parce qu'en fait, le BTS, tout ça, les études, les cours, ça me plaisait pas vraiment. J'ai fait carrément autre chose qui a rien à voir avec l'informatique. J'ai fait de la poissonnerie. Puis après, je me suis dit bon, c'est pas vraiment pour moi. Et j'ai rejoint un centre de formation l'AFPA en 2019 pour faire du développement web et web mobile. Et voilà, après j'ai de fil en aiguille, on va dire, j'ai passé par différentes entreprises. Et un jour, voilà, j'ai postulé pour un poste où il y avait écrit IBMI analyse développeur. Je me suis dit bon, ça peut être intéressant. J'ai envoyé mon CV et quelques jours après, j'ai reçu un appel qui me dit voilà, vous serez intéressé par l'AS400, IBMI, etc. Et moi, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette machine? Donc déjà, je m'étais posé la question, donc j'ai cherché, je me suis renseigné, etc. Et je me suis dit ouais, c'est ça que je veux faire, c'est de l'informatique de gestion que je veux faire. Et voilà, et ensuite, on a été formé. Et là, récemment, j'ai été nominé IBM champion. Donc ça fait plaisir déjà pour le travail accompli.
Ah,
Et
félicitations, hein.
merci, merci beaucoup. Et IBM champion, voilà, bon, pour définir ce que c'est voilà, c'est un expert technique, leader d'opinion ou contributeur actif qui partage ses connaissances, qui anime une communauté autour d'un domaine. Ça peut être, moi par exemple, c'est sur l'IBMI, et voilà, qui travaille avec IBM et qui reste quand même à l'extérieur de la société IBM, puisque les IBM champions, en fait, voilà, sont autour d'IBM, on va dire. Et voilà, aujourd'hui, je fais beaucoup de formations chez les clients sur l'IBMI. Et récemment, on a ouvert voilà une école de formation, notamment on a des alternants, etc. L'école Notos, où on forme on va dire la future génération de développeurs IBMI.
voilà, on, avec moi à sa tête, on va dire, et on est prêt pour voilà, pour remplacer et pour que voilà, et je sais qu'il faut beaucoup de développeurs IBMI et pour rassurer, on va dire, et les directions, on est là.
Effectivement, c'est un sujet qu'on avait déjà pu beaucoup aborder avec nos invités dans les podcasts précédents, le renouvellement de la masse des développeurs sur l'IBMI, gros sujet. Et tu as évoqué juste le Notos. Est-ce que tu pourrais l'expliquer rapidement, s'il te plaît ?
Alors, Notos, c'est une société de formation. Voilà, qui donc elle appartient au groupe Harmony, qui a été créé à la base bon, il y a très longtemps par un monsieur qui s'appelle Dominic Gate, qui aussi fait de la formation. Voilà, donc c'est une société vraiment dédiée pour la formation et de la formation sur IBMI. Vraiment, on fait de l'IBMI, c'est-à-dire qu'on a les langages, langage RPG, comme a dit Thomas tout à l'heure, RPG 3, RPG 4, RPG full free, des web services, du SQL. Voilà, donc il y a de l'ancien et il y a du nouveau. Donc on fait pour moderniser, on a besoin de voir de l'ancien code et de comprendre l'ancien code. Et voilà, tous nos, moi j'ai été formé aussi là-dessus et tous nos apprenants passent par cette étape de compréhension du vieux code au code le plus récent et avec les nouveaux concepts qui, bah, notamment les web services, le XML, le JSON, etc. Pour faire évoluer cette plateforme. Voilà, et Notos, en fait, voilà, on forme plus de... Là, par exemple, pour cette année, on forme 100 personnes sur l'IBMI.
Ok, donc on est déjà sur une grosse promotion.
C'est ça. En fait, c'est plusieurs petites promotions. On va dire, là, on a enfin, petite, entre 10 et 15 personnes. Là, on en a un sur Paris, et en parallèle, on en a un sur Lille. Donc, ça fait, on a déjà commencé, là, début d'année, avec quand même pas mal de personnes. Et donc là, c'était un peu différent avec une école ici, sur Montpellier, une quinzaine de personnes en alternance, voilà, qui eux vont à la fin obtenir un bac plus 3 sur l'IBMI. Voilà, ça va être, alors je sais pas si c'est le premier en France ou,
mais en tout cas. Il y a une vraie formation diplômante. Le diplôme est donc reconnu par l'État?
C'est ça, c'est le RNCP. Bon, là, c'est un mot technique. Voilà, bon, je connais pas exactement le mot, mais voilà, c'est RNCP. Bac plus 3, bac plus 4 au niveau européen. Et, ils ont, voilà, 100 jours de formation total. Et, le reste en entreprise. Et forcément, en entreprise où il y a de l'IBMI. À la fin, ces personnes-là, vont avoir un bac plus 3, vont avoir le bagage technique et la compréhension métier. Donc, ils auront les deux. Parce que, enfin, après, là, c'est pour moi, on peut pas faire de l'IBMI si on ne comprend pas le métier, puisque l'IBMI correspond, c'est le métier de l'informatique de gestion, contrairement à l'informatique, on va dire, data scientist, etc. Ici, c'est vraiment, on doit essayer de comprendre les métiers avant tout, et pour ça, nous, ce qu'on met vraiment ça en priorité.
Ok, c'est bien que tu aies parlé de Notos parce que ma question allait ensuite venir à Harmony. Donc tu as déjà pu expliquer la branche formation de Harmony et j'aurais aimé que tous les deux vous puissiez un peu présenter Harmony vu que tous les deux vous en êtes membres.
Oui, alors je vais présenter Harmony. Alors comme j'ai dit, Harmony, il y a... on va dire deux entités à l'intérieur. Donc il y a la partie PHL Soft, donc les produits PHL, et qui fait par exemple du PHL Web, du PHL Spool, c'est pour voilà des outils de modernisation sur l'IBMI. Et de l'autre côté, on a donc Notos qui fait de la formation, comme je l'ai expliqué, et Harmony, on a un centre de TMA qui répond voilà aux besoins des métiers, à l'évolution, à la maintenance en fait du code IBMI.
C'est ça. Et si je peux rajouter, bientôt du coup aussi également une nouvelle entité, cette fois-ci pour le coup dédiée à l'IA, du coup qui sera sous le nom de Carl AI, qui viendra se greffer au même titre en fait sur toute la partie en fait plus ou moins modernisation, recherche et développement au même titre que PHL.
Ok, petit instant promo, mais bienvenue parce que, comme vous l'avez souligné, la modernisation, c'est en permanence et il semblerait que l'IA commence à prendre pleinement, à arriver vraiment de plein pied dans cette partie.
Oui, effectivement, oui.
Et c'est sympa parce que du coup, ça me mâche vraiment le travail de transition. Merci encore.
Avec plaisir.
et qui me permet d'expliquer maintenant pourquoi cet épisode est spécial par rapport à tous les précédents. On va se concentrer sur un sujet en particulier aujourd'hui qui est l'IA. Alors, on n'a pas l'ambition d'expliquer absolument tout dans les détails. L'IA, tout le statut qu'elle a aujourd'hui, d'où ça vient, on ne peut pas faire un historique complet. Déjà, d'une, ne serait, parce que c'est un sujet tellement vaste qu'il nous faudrait des heures pour vraiment en faire le tour. Et de deux, parce que déjà, je n'ai pas forcément les connaissances en tant que présentateur pour pouvoir vous suivre dans les moindres détails. Et ensuite, je pense que vous avez quand même un calendrier assez chargé de votre côté. Donc, pour parler de l'IA, on va parler d'harmonie et on va surtout parler des outils que vous allez mettre en place via la section IA que tu viens d'évoquer, Thomas, Carl AI.
Oui.
Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de présenter, on va dire, toute cette partie, j'aimerais, avec vous deux, poser quelques points de base qui vont permettre à tous nos auditeurs, nos auditrices, d'avoir un petit peu une meilleure compréhension, mieux définir le sujet, de quoi on parle. Ce serait de définir l'IA. Dans un premier temps, si vous me permettez, j'aimerais qu'on juste donne dans les définitions, qu'on utilise une que j'ai trouvée sur le site même d'IBM, qui est « technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines de simuler l'apprentissage, la compréhension, la résolution de problèmes, la prise de décision, la créativité et l'autonomie de l'être humain ». C'est à la fois, ça tient dans une phrase, mais ça fait appel à tout un ensemble de concepts, c'est juste énorme.
Oui, bah c'est exactement ça. En fait, c'est en réalité très compliqué de définir l'intelligence artificielle. Déjà, il faudrait parvenir à définir correctement ce qu'est l'intelligence dans un premier temps. Et bah, en fait, effectivement, ça englobe aujourd'hui un peu tous les concepts. Et avec l'émergence de toutes les nouvelles techno et de toute la puissance de calcul aujourd'hui qu'on a pour en fait asservir des agents qui ont vocation à utiliser l'intelligence artificielle, on peut en fait englober plusieurs tâches et plusieurs compétences, voire même en fait la rapporter dans plusieurs domaines. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui en fait à dire, rien que par exemple avec aujourd'hui on utilise plus ou moins tous nos agents type Siri, etc., sur nos smartphones. Rien que ça, en fait, ça utilise en partie l'IA, ne serait-ce que pour la reconnaissance vocale. Après, ça peut être quelque chose, par exemple faire de la prédiction de signaux boursiers derrière. En quelque sorte, il y a l'utilisation de l'IA. Pareil pour, évidemment, de la génération de texte, mais ça va être aussi pour de la génération d'images. C'est quelque chose, en fait, aujourd'hui, de très vaste. Et comme on est en mesure de pouvoir entraîner une techno, un système à partir de données, bah, en fait, on est en mesure, derrière, de définir un agent qui pourra servir différentes tâches.
Donc en gros, on a une définition très orientée par l'usage dans ce que tu viens de nous dire.
C'est ça, oui. En fait, ce serait, on parlerait plutôt d'agent IA et on irait, en tout cas à mon sens, plutôt vraiment le rapporter sur un domaine très défini. Par exemple, aujourd'hui, on entend vraiment parler de l'IA pour un type particulier, et c'est celui que la plupart connaissent, parce que c'est ce qu'on peut retrouver avec tous les outils type ChatGPT, pardon, DeepSeek, ou encore même Mistral, etc. Donc, ça va être le LLM pour Large Language Model. Donc, en fait, en ce sens, un modèle qui contient un nombre de paramètres absolument faramineux. Pour ChatGPT, en termes de paramètres purement actifs, de mémoire, il me semble que ça tourne autour des 300 milliards de paramètres. Donc c'est quelque chose vraiment de très très conséquent et qui nécessite vraiment une capacité calculatoire vraiment faramineuse. Voilà, ça c'est le type le plus connu. Maintenant, il y a également aussi, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on va appeler des VLM, donc des Visual Language Models. Ça va être plus des modèles sur lesquels on peut fournir une image en entrée et on va leur dire, bah voilà, explique-moi l'image, je te donne par exemple un diagramme, j'aimerais que tu me retranscrives ce diagramme. Ça, par exemple, typiquement, ce sont des types d'agents. Maintenant, il en existe énormément au final.
Donc là, on est déjà rentré même dans une. Ce que tu es en train de nous donner, c'est déjà même une classification des différents types d'intelligence artificielle.
Oui.
Pour reboucler en fait ce qu'on avait dit sur effectivement cette difficulté à définir l'intelligence, j'étais tombé sur une question qui me venait. C'était, on a des définitions de l'intelligence artificielle qui en quelque sorte sont calquées sur l'intelligence humaine, mais on a déjà du mal à définir l'intelligence humaine. Est-ce que on se base uniquement sur cette espèce de définition basique de l'intelligence, enfin basique, la plus universelle possible, qui est concentrée sur la notion de capacité d'apprentissage et même de rationalité, ou est-ce que dans l'intelligence artificielle, on essaye au final juste d'imiter l'intelligence humaine, et par là on entrevoit déjà ce que tu évoquais, potentiellement les différents types d'intelligence humaine, c'est-à-dire. Si j'essaie d'illustrer mon propos, on a différents types d'intelligence dans le sens où on peut avoir de l'intelligence émotionnelle chez l'être humain, qu'on peut avoir une intelligence plus orientée sur la rationalité, une nouvelle fois vers les calculs, vers les chiffres.
En fait, oui, il faut vraiment le voir comme quelque chose qui tente d'imiter. Ça reste un simulacre sur lequel en fait on fournit des données. D'ailleurs, on peut fournir n'importe quel type de données, mais c'est pareil, on peut très bien donner de la data orientée selon un besoin spécifique. Et en fait, l'IA va tenter simplement de répliquer ce qu'elle apprend. On peut donner des exemples qui sont très courants dans les problématiques avec les LLM et du coup la génération de langage naturel. C'est que aujourd'hui, typiquement, pour tout ce qui est la question du genre sur le vocabulaire, quel qu'il soit, hein, que ce soit du vocabulaire français ou même plus généralement d'autres langues, en fait, le genre va être orienté en faveur du masculin. C'est un fait. Et l'IA, en apprenant comme ça, va répliquer cette notion-là. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, un exemple assez courant que j'ai toujours un petit peu en tête, c'est un médecin. On prend un médecin, voilà. Il n'existe pas vraiment de féminin pour définir la profession de médecin. Et typiquement, la chose qui va venir le plus naturellement, c'est de qualifier le féminin de médecin comme infirmière. Sauf que hiérarchiquement, une infirmière est inférieure à un médecin. Et c'est un cas concret justement où l'IA reproduit des comportements qui sont typiquement humains. Et en l'occurrence, là, sur les problématiques justement associées au genre.
Donc on est dans l'introduction même de biais cognitifs dans l'IA qui sont eux-mêmes, si j'utilise le bon mot, inférés aux limites du langage humain.
C'est ça, oui, exactement. Et d'ailleurs, justement, c'est aussi toutes les problématiques, enfin, c'est l'une des problématiques qui peut être rencontrée aujourd'hui pour un apprentissage, c'est qu'est-ce qu'on va donner en entrée comme data et sous quelle forme on va la donner. Est-ce qu'on souhaite préserver ces biais pour être au plus proche de l'humain, ou à l'inverse, est-ce qu'on souhaite en créer de nouveaux pour avoir quelque chose qui serait plus égalitaire, mais foncièrement erroné par rapport à la réalité. C'est assez compliqué à définir, mais voilà, typiquement, ça relève de problématiques qui sont couramment rencontrées justement avec les data en IA.
Ok, on est quelque part, enfin, si on reste sur le sujet que tu as évoqué, qui est le genre, on serait sur une espèce de progression morale de l'IA par l'inclusion plus grande du genre, des différents pronoms, ou alors même de l'extension du vocabulaire de la langue française par rapport à l'actuel
Oui, c'est
potentiel.
ça, oui. Et voilà, aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont assez compliquées justement à gérer, parce que toute la problématique n'attend pas d'être dans l'inclusion ou non, mais de savoir où positionner correctement le curseur.
Dans ce cas, je me permets de revenir juste sur, au final, sur ce que tu disais avant. La donnée reste au centre absolument de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça, c'est comme quand le métier de data analyst est apparu. Au final, c'est la qualité de la donnée qui permet de tout définir.
Totalement. La donnée, entre guillemets, c'est, si j'ose dire, c'est un petit peu le nerf de la guerre sur ce genre de problématique. C'est-à-dire que si on n'a pas de la donnée conséquente, on peut difficilement faire quelque chose. Et au-delà de la quantité, se pose vraiment la question de la qualité. On pourrait en fait donner des millions et des millions d'enregistrements, mais de piètre qualité. Derrière, en fait, on a de fortes chances d'avoir une capacité de raisonnement ou quel que ce soit qui va être en fait grandement diminuée, parce que tout simplement, si on induit des erreurs dans nos jeux de données à l'entraînement, potentiellement l'IA va répliquer ces erreurs dans des cas concrets.
Ok, donc je vais essayer de résumer. Ça fait le podcast a commencé il y a environ 20 minutes. En 20 minutes, on a déjà vu quand même beaucoup de choses. Je veux dire, on a essayé de définir l'intelligence, ce qui est déjà pas forcément chose facile, mais je dirais qu'on s'accorde à dire que c'est centré sur la capacité d'apprentissage.
Oui.
Et d'adaptivité à tout type de scénario. Ensuite, on a évoqué principalement le fait que la donnée soit au centre de la chose.
Oui.
Donc maintenant, il me reste au final quelque chose... Enfin, pardon, j'oublie le troisième point qu'on a évoqué, qui est le biais cognitif introduit dans l'IA, mais qui, pour moi, rejoint le deuxième, qui est la qualité de la donnée.
Oui, 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 totalement.
Reste donc pour moi un dernier point, et tu me corriges si je dis une bêtise, mais qui est le moteur en lui-même, qui est au final le calcul scientifique, l'apprentissage, oui. Peut-être tout l'algorithme qui permet de passer de la donnée vers véritablement... la décision,
oui.
La création. Dans ce cas, c'est là où, il me semble, on peut introduire les classifications d'IA, c'est-à-dire le type de moteur qu'on va utiliser selon l'usage et les agents dont tu parlais au tout début de ce podcast.
Oui, totalement. Derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'il peut y avoir différents besoins, et que ce soit en termes d'algorithmique ou même en termes de puissance calculatoire brute, selon ce qu'on souhaite faire. Par exemple, basiquement, si on souhaite plus ou moins être dans la prédiction, pour vraiment le résumer très simplement, on n'a pas forcément besoin de faire appel à ce qu'on appelle le deep learning, donc pour le simplifier et le vulgariser énormément, ce qui serait l'utilisation de réseaux de neurones et donc vraiment plus ou moins l'IA telle qu'on la connaît, on peut faire appel vraiment en fait aux parents de cette discipline, qui serait plutôt le machine learning. Et en ce sens, en fait, derrière, avec des algos relativement simples qui d'ailleurs peuvent tourner de manière calculatoire sur la plupart des ordis, sauf si s'ils sont répliqués d'une manière assez faramineuse. Typiquement, on peut prédire des choses assez simples. Maintenant, sur des choses qui vont être beaucoup plus complexes, où en fait, on va retrouver un nombre de facteurs, et c'est surtout ça qui pose la nécessité du deep learning. Sur des choses qui vont être vraiment multifactorielles, où il va y avoir énormément de paramètres à prendre en compte, ça peut être déjà beaucoup plus intéressant de favoriser le deep learning. Par exemple, pour le résumer assez simplement, on pourrait imaginer le machine learning comme étant, on va le résumer à une régression linéaire pour éviter de trop rentrer dans la technique.
Il y a encore déjà régression linéaire. Oui, je pense qu'on a déjà perdu du monde. Tu as évoqué déjà le deep learning avant, maintenant machine learning.
Pour la régression linéaire qui est un calcul statistique, en fait, il faudrait imaginer que le deep learning pour un réseau de neurones donné, ce serait en fait faire une régression linéaire pour chaque neurone. Donc, par exemple, si on a un modèle qui contient, on va dire, 1 milliard de paramètres, pour avoir une décision en sortie, en fait, ce serait d'avoir en fait 1 milliard de régressions linéaires. Ce qui explique justement ce besoin calculatoire et le fait aujourd'hui, d'ailleurs, que ces technos en fait soient plus qu'émergentes et explosent. On est en plein boom de ça. C'est parce que justement, en fait, toutes ces logiques-là sont rendues possibles grâce à la puissance qu'on a aujourd'hui. En réalité, c'est des choses qui ont été théorisées, il y a il y a des décennies de cela. Les premiers travaux, il me semble, remontent aux années 50-60, donc c'est déjà vraiment quelque chose qui commence à dater en termes de concept, mais ne sont rendus possibles sous la forme qu'on les connaît qu'aujourd'hui, parce qu'on est en mesure de le faire seulement aujourd'hui.
Ok, donc Alan Turing, effectivement, on se rappelle à son bon souvenir, il avait déjà théorisé pas mal de choses.
Oui, oui, oui.
Je me permets juste de revenir sur le réseau neuronal, puisque tu l'as évoqué plusieurs fois. C'est pour faire une explication, et, par réseau neuronal, on entend une simulation du fonctionnement des neurones du cerveau humain par la machine.
Oui.
Voilà. Donc c'est là, malheureusement, pour des raisons de complexité de l'explication, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nécessiterait, là encore une fois, un niveau de maîtrise que je n'ai pas et ensuite une quantité de temps assez conséquente.
Oui, il faudrait, là, parce que voilà, faudrait déjà expliquer un peu le fonctionnement d'un neurone derrière pour visualiser un peu mieux la chose, mais oui, oui, c'est l'idée, c'est de calquer un petit peu sur ce fonctionnement pour en fait le répliquer sur un système informatique.
Voilà, c'est comment est-ce qu'on réussit à simuler un fonctionnement biochimique humain de manière mathématique en comment dire, en faisant transiter de l'électricité entre deux morceaux d'un même caillou.
C'est
vraiment
ça.
De manière très basique, hein.
Oui.
Pour compléter tout ce que tu disais, tu as beaucoup abordé l'apprentissage. Pour les différents types d'IA, je sens hein, qu'il y en a. Il y en a on parlait de LLM, on parlait de réseaux neuronaux. Il y a l'IA d'apprentissage, donc. On a eu de l'IA qui est plus sur de la prédiction, donc en quelque sorte, c'est une IA de raisonnement, où on cherche à émuler la capacité de raisonnement de l'esprit humain.
Oui.
Si j'ai bien compris, il nous manque, si j'ose utiliser le mot manque, les IA dites de résolution de problèmes, ou tu l'as évoqué très rapidement, qui sont les IA de perception, c'est-à-dire d'explication d'images.
Oui.
Et ensuite, ce sont les IA qui sont utilisées pour la compréhension du langage.
Oui.
Est-ce que pour les résolutions de problèmes, pour essayer d'illustrer au mieux, est-ce que tu en connais une qu'on pourrait donner à nos auditeurs ?
Pour de la résolution de problèmes.
Parce que moi, je pensais à l'exemple des... Ça peut être tout bête, l'optimisation industrielle ou stratégie de jeux vidéo.
Oui, effectivement, c'est vrai que pour le jeu vidéo, ça fonctionne très très bien justement. Oui, bah, de l'apprentissage par renforcement du coup, où c'est quelque chose en fait qui marche très très bien dans ce contexte-là, parce que là, tout simplement, l'idée, c'est un petit peu à contre-pied de ce que je disais tout à l'heure par rapport à la donnée, c'est de laisser en fait une logique purement exploratoire, et donc en fait de sous couvert de récompense en cas de bonne action, indiquer à l'IA qu'il y a des comportements appropriés. Et ce type d'apprentissage, justement, c'est pour ça qu'il fonctionne très très bien dans les jeux vidéo, ou peut aussi fonctionner dans un système industriel, c'est que justement, on est dans un système. Faut voir la chose comme le monde, comme étant un système défini avec ses règles et ses lois, lois qui doivent être très claires et très bien paramétrées, et en ce sens en fait ça peut très très bien fonctionner. C'est justement pour ça que ça marche bien dans un jeu vidéo, parce que dans un jeu vidéo on va avoir le moteur physique, on va avoir ce genre de choses là, et en fait c'est des lois sur lesquelles le modèle est capable d'apprendre du monde dans lequel il évolue. C'est quelque chose qui dans la pratique fonctionne beaucoup moins bien dans le monde humain, parce que voilà, même c'est juste extrêmement compliqué. Il y a un nombre de paramètres qui est absolument faramineux pour simuler le monde dans lequel on vit. Donc oui, dans un contexte industriel ou même de jeux vidéo, c'est une méthode également qui fonctionne très très bien pour avoir un agent qui devient même autonome en fait au final sur la tâche.
Pour vulgariser tout ça, si on devait un jeu vidéo, l'avantage, c'est qu'il y a un système de récompense. Par exemple, si on prend le jeu du Snake, Oui. Tout le monde a dû jouer au Snake. Voilà. On a le serpent qui se forme au fur et à mesure, qui grandit parce qu'on a une récompense. Si on mange le petit point blanc, ben, ça veut dire qu'on grandit et qu'on devient de plus en plus grand et que le Snake continue. Donc, si on utilise de l'IA par renforcement, au début, ben, effectivement, l'IA va se tromper, va prendre des mauvais chemins et donc va tomber dans le mur et tomber sur le mur et se manger lui-même, etc. C'est une mauvaise action. Et une bonne action, c'est quand il mange et qu'il grandit. Donc il va comprendre au fur et à mesure des données qu'il accumule, que des chemins qu'il prend, que c'est de mieux en mieux.
Donc quelque part, enfin, si on doit rester dans le vocabulaire du jeu vidéo, c'est du die and retry, quoi. Meurs, réessaye.
C'est un peu ça.
En vrai, c'est même exactement ça. C'est-à-dire que, bah, en fait, typiquement, dès qu'on essaye d'être sur ce genre d'apprentissage par renforcement, si le modèle se trompe, bah, tout bêtement, on recommence. Hein.
Donc c'est-à-dire, on garde les mêmes données, à partir de ce qu'on a, on recommence à zéro et on regarde. Qu'est-ce que le modèle est capable de sortir en se réadaptant à partir de ce qu'il a déjà vu?
C'est exactement ça, oui. En fait, on va garder le, bah, par exemple, dans un contexte de die and retry où, bah, en fait, on va garder des connaissances de notre précédent échec et on va tirer le son pour l'échec, pour la tentative suivante. Jusqu'à avoir, en fait, une meilleure récompense et ainsi de suite, jusqu'à avoir, en fait, un modèle qui s'adapte complètement à la situation donnée.
Ok, et là, il y a le joueur en moi qui est en train de se demander s'il n'y a pas déjà une IA qui existe, qui a été entraînée avec ce modèle-là sur les jeux de mon enfance type Age of Empires 2 et qui pourrait me déboîter en 2 secondes.
Alors oui, pour l'anecdote, il y a des modèles sur ce genre de jeu, tout ce qui est même jeu de gestion, jeu de stratégie, et des modèles qui sont, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises, entraînés par Meta, et en fait, qui ont des comportements assez drôles, c'est-à-dire que ça pose aussi justement plein de questions assez intéressantes, notamment la notion d'alignement. Entendons par alignement, en fait, à quel point le modèle va essayer de répondre à la demande qui est formulée, et selon comment la demande est formulée, à quel point ça peut induire des comportements imprévus. Et typiquement, sur ce genre de problématique, sur un jeu de gestion qui était en ligne, donc avec un accès au chat et avec d'autres joueurs, le modèle en question, en fait, a été pris en train de mentir avec des comportements vraiment purement humains en disant bah là, par exemple, je vais faire une pause, je vais manger, etc. Alors qu'en réalité, pas du tout, c'était vraiment un modèle qui jouait derrière. Et au final, en fait, il profitait de l'absence de son adversaire pour gagner. Parce que derrière, la demande était simple, c'était maximise en gros le nombre de victoires.
Attention, ça y est. League of Legends a déjà commencé à déborder. Mais non, c'est ça aussi, bah... Je pense que pour nos éditeurs et auditrices, ça veut aussi dire qu'il y a les questions de la moralité qui entre déjà en jeu, alors qu'on n'a pas encore parlé en détail des LLM, vraiment des grands modèles qui, eux, peuvent vraiment, qui doivent avoir des paramètres liés à ces questions-là.
C'est justement des questions en fait qui sont intéressantes. C'est pour ça que l'exemple est vraiment très bien, c'est que ben pour le coup derrière se pose vraiment effectivement la question de la moralité, et c'est pour ça justement que la notion d'alignement est plus que fondamentale et importante. Il y a beaucoup de papiers de recherche justement sur ces questions-là, sur en fait ben, comment derrière une simple demande peut avoir des effets complètement néfastes. Et je sais aussi de sources sûres qu'il y a même des vidéos sur YouTube aujourd'hui qui commencent à évoquer grandement ce genre de sujet de manière très intéressante, ou même par le biais de jeux qui sont très très simples. Je crois que c'est Paperclip, il me semble, oui. Le jeu des trombones sur le web, où en fait derrière bon, c'est un idle game, donc typiquement voilà, le but c'est de cliquer pour avoir un maximum de trombones. C'est assez rigolo, donc vraiment des trombones de bureau. Et en fait petit à petit de ce jeu, on s'aperçoit en fait que ce qui est censé être incarné, en réalité, c'est une IA qui doit fabriquer le plus de trombones. Et en fait, derrière cette notion de fabriquer le plus de trombones, donc d'avoir un rendement maximal, bah en fait, ça conduit à un épuisement des ressources, bon, par effet boule de neige. Mais voilà, c'est évidemment c'est grossi, mais oui, ça démontre vraiment ce genre de questionnement et de problématique.
C'est la limite en fait. L'IA, où est-ce qu'elle s'arrête? Oui. C'est surtout ça. Là, le paperclip, en fait, l'IA, à la fin, on comprend que l'IA est capable de détruire toutes les ressources qu'il y a sur Terre pour créer des trombones. Puisqu'en fait, c'est ce qu'on lui a demandé à la base. Crée-moi des trombones et optimise le but. Donc, l'IA, évidemment, on lui donne un objectif, mais en fait, pour lui, il va tout faire pour réussir cet objectif. Bon, après, là, c'était dans le cadre d'un jeu pour oui. montrer l'excès à son paroxysme, la dangerosité de l'IA. Mais voilà, aujourd'hui...
C'est ça. Et voilà, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que derrière, on pourrait être tendance des fois à avoir un petit peu ce biais, et c'est même normal que ce soit un biais qui arrive de plus en plus, d'imaginer vraiment un agent comme un système qui a sa capacité de raisonnement propre, en tout cas c'est des fois à s'y méprendre, et justement il faut éviter en fait de tomber dans ce biais-là. Derrière, effectivement, ça reste qu'un agent. Et surtout, au titre d'agent qui simule un comportement de réflexion, il n'y a pas de notion de bien ou de mal ou ce genre de choses. C'est juste, voilà, j'ai une demande, j'ai été entraîné pour répondre à cette demande, j'essaye d'y répondre le mieux et avec la probabilité la plus forte pour donner la réponse la plus appropriée.
Ok, vous voyez, on essaie de rester dans la surface et pourtant on est déjà sur des questionnements philosophiques, quoi.
Oui, on a parlé
de moralité, quoi. Ce qui me fait dire que du coup, enfin, qui me fait dire, pardon, pour faire sur la transition, on arrive maintenant à l'IA de perception. Tu l'avais évoqué rapidement avec l'exemple de lecture d'un graphe.
Oui.
Et est-ce que vous deux, vous avez déjà pu en utiliser, en mettre en place?
Alors oui, de mémoire, on l'avait fait dans le cadre de nos formations en interne. Donc en fait, la construction de CNN en opposition justement au réseau de neurones d'un LLM qu'on appelle des RRN pour réseau de neurones récurrents. Là, un CNN, donc un réseau de neurones convolutif.
Oula, déjà là, je pense qu'il va falloir du coup expliquer récurrent contre convolutif.
C'est voilà, je vais éviter de trop rentrer dans le détail. C'est juste pour donner les noms. En fait, les CNN sont globalement beaucoup plus simples à mettre en place qu'un RNN, puisque l'avantage, c'est que faire de l'entraînement sur des images, c'est assez simple finalement. Et surtout, on est en mesure de dupliquer la donnée beaucoup plus facilement que pour du langage. Typiquement, je vais prendre une photo de chat. Si cette photo de chat, on l'inverse, on la met en noir et blanc, on la met en nuance de gris, on la bruite, ce genre de choses. En fait, derrière d'une simple photo de chat, on va peut-être avoir une dizaine de photos de chat. Et d'un point de vue de l'entraînement, en fait, ce seront 10 photos différentes. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple de construire des réseaux de neurones convolutifs et surtout de réaliser des entraînements dessus. Et c'est d'ailleurs les premiers vrais entraînements à part entière qui ont été faits. De mémoire, il me semble que c'était Yann Lequin qui avait travaillé sur ça il y a... Je ne veux pas dire de bêtises,
En 98, ouais.
98,
ouais. Ouais, c'est avec le réseau le neuronal, du coup, le NET5. Ils ont mis en place donc une reconnaissance des chiffres manuscrits, notamment dans les banques, pour les chèques, etc. Et donc, pour savoir si un 2, un 8, etc. était bien un 8, était bien retranscrit au niveau informatique comme un 8, en fait, ils ont entraîné, en montrant... plusieurs, mais des centaines de milliers de données, pour dire que le 8, ça correspond bien. Les humains ont tendance à faire des 8 un peu, voilà, certains baissent un petit peu la queue, etc., et que c'est pas un 0, par exemple. Et en fait, ils ont entraîné ça, et via ce réseau qu'ils ont mis en place, enfin que Yann Lequin, un chercheur français, a mis en place, à la fin, était capable justement de dire le 1, ça correspond bien à un 1 dessiné par un humain, et bien un 1 informatique aussi. Voilà, ces images, c'est un entraînement de modèle.
Ok, 1998, tu dis.
Oui, 1998. Là, l'IA, c'est, faut savoir que l'IA, c'est vraiment ancien. C'est-à-dire qu'on parlait déjà d'IA, d'intelligence artificielle, en 1957. En fait, quand on
Oui.
a, même avec Alan Turing, tout ça, on parlait déjà un peu d'intelligence artificielle. C'est pas du tout l'intelligence artificielle qu'on parle depuis 2-3 ans avec ChatGPT, Mistral, DeepSeek, etc. Mais ça, en fait, ça, ce sont un peu des héritiers de toute cette avancée-là. C'est juste qu'à l'époque, c'était des journaux spécialisés, etc. Type un peu comme ce qu'on a au niveau de la médecine. C'était limité à à des chercheurs, etc. Aujourd'hui, bon, ça s'est démocratisé.
Oui.
L'IA, voilà, c'est grâce à l'essor d'Internet aussi. Hein, ça a pu accumuler des données, puisqu'en fait, il n'y aurait pas pu avoir l'IA qu'on a aujourd'hui sans Internet, puisque l'IA qu'on a aujourd'hui, comme ChatGPT, s'est entraînée en fait sur les données qu'il y a sur Internet. Et pour les images, par exemple, je pense à Yann LeCun, pour les images, bah Facebook, en fait, c'est pour ça quand vous avez votre image, quand un de vos copains, copine prend une image de votre photo, et bien il peut vous dire, bah, vous avez été identifié sur cette photo. C'est-à-dire ça a été entraîné, en fait, tout ça. Et ça, déjà depuis 2012, 2013, sur Facebook, vous avez ça, par exemple.
Donc, et ça rejoint ce que disait Thomas plus tôt. C'est quelque chose qui est effectivement très ancien et c'est vraiment la puissance de calcul démultipliée des dernières années qui permet un usage beaucoup plus massif.
C'est ça, exactement, oui.
C'est ça, et aussi le fait aussi que l'IA nous réponde. Par exemple, ChatGPT, quand on lui dit bonjour, il nous dit bonjour, etc. Je veux dire, avec Siri d'Apple, c'était aussi de l'intelligence artificielle, mais c'était de l'intelligence artificielle, on peut dire limitée, dans le sens où il répond à certaines demandes. Alors que ChatGPT, avec la puissance de calcul qu'il a derrière, avec les données qu'il a derrière, peut nous répondre à plusieurs problèmes, problématiques, etc. pour résoudre des problèmes. Et c'est ça en fait qui a rendu le côté un peu vivant de la chose, mais au final, l'IA, les calculs qu'il y a derrière, ils sont en place en fait depuis un certain moment.
C'est une bonne transition que vous me donnez parce que au final, tout pour arriver aux dernières IA qui sont celles liées à la compréhension du langage humain, on a effectivement d'abord eu tout un travail de fond via la théorie, tous les modèles théoriques, les schémas qu'on a eu, on va dire, des années 50 jusqu'aux années 90. Ensuite, on est arrivé à l'accumulation de données et enfin, on l'a vu via l'exemple que tu as donné juste avant du monde de la banque, on a commencé à exploiter le tout et on va dire aujourd'hui, enfin relativement récemment, parce que on a enfin le matériel qui permet de, pardon de l'expression, mais d'envoyer la purée à fond pour tout ce qui est puissance de calcul, on peut véritablement s'en servir pour ce qui est le plus difficile ou une des choses les plus difficiles, c'est de gérer tout le subjectif du langage humain.
C'est exactement ça, oui. En fait, ça a vraiment été un travail, et en fait, c'est un peu la résultante de toutes ces décennies où il y a eu vraiment, oui, effectivement, cette accumulation de recherches, de premières mises en pratique dans des cas d'application, dans un premier temps réalisables, et puis en même temps, toute cette partie collecte de données qui, en plus, était accentuée, par l'usage d'Internet. Et enfin, l'émergence de toute cette puissance de calcul aujourd'hui qu'on peut avoir avec les GPU, etc., qui permet réellement que, par exemple, des modèles comme un chat GPT fonctionnent aussi bien que ce qu'on peut le connaître aujourd'hui.
Okay. La question qui me vient d'instinct comme ça, ce serait quoi la prochaine étape? On va dire là, on en est au point où on peut s'occuper du langage. C'est quoi la prochaine étape? On fait de la philosophie avec l'IA?
En fait, il y a un concept que, bon, je pourrais pas forcément en parler aussi bien parce que voilà, je veux pas trop me partir sur ce sujet, mais il y a l'idée en fait de ce qu'on appelle l'AGI pour Autonomous General Information. Intelligence, pardon, qui en fait vient mettre en avant cette idée que potentiellement derrière on tend vers justement un agent qui a une connaissance grandiose et vraiment générale sur enfin sur la plupart des sujets en fait, et on le voit un petit peu comme le seuil en fait où ça y est, on a un système informatique qui devient vraiment j'ai pas de référentiel pour comparer, mais qui deviendrait vraiment cette intelligence au sens absolu du terme.
Ok, c'est-à-dire les connaissances de Wikipédia, la capacité de parler, même de faire des discours, allez, pour prendre un exemple politique, de Claude Malhuret.
Oui, voilà.
Donc oui, ce serait la fameuse frontière finale qui a fait fantasmer pas mal d'auteurs, où on aurait l'IA potentiellement, enfin, dans l'intelligence complètement indépendante de l'être humain.
C'est oui, on peut vraiment le voir comme ça. Ou même tout à l'heure, je parlais du fait que l'idée c'était vraiment d'avoir différents agents qu'on a servis en fait pour des besoins particuliers. Et c'est pleinement vrai dans la plupart des pipelines aujourd'hui de projets qui intègrent vraiment l'IA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en général, il y a rarement une seule IA en fait. Il peut y en avoir vraiment plusieurs, et autant qu'on a de besoins spécifiques. Là, l'idée, ce serait vraiment, en fait, on aurait un seul agent qui vraiment, en fait, serait capable de tout. Concrètement, peu importe la tâche, il saurait répondre aux besoins, quoi.
Ouais. Effectivement, la frontière finale. Il n'y a plus besoin de...
Ouais.
Bah, si, il faudra bien je veux dire, on parle seulement d'intelligence, on parle pas d'interaction avec le monde concret. Donc là, il y aurait encore besoin des êtres humains. Oui, on se calme. Ça me permet quand même de conclure cette partie, grande partie introductrice, mais au final, ô combien nécessaire vu le temps qu'on a passé dessus, pour arriver sur la partie centrale, normalement, du Arcade High Podcast, qui est le projet de l'invité, comment celui-ci a réussi à le mettre en place.
Oui.
Alors, dans le cas d'Harmony, on l'a évoqué rapidement au tout début, c'est la section Carl et AI. Et expliquez-moi, messieurs, comment est né Carl AI, comment ça a pu se mettre en place. Bien sûr, je pense bien que en tant que membre d'Harmony, vous n'êtes pas autorisé à divulguer des informations sensibles. C'est un cas qu'on a déjà eu avec tous nos invités. Mais dans la mesure du possible, que pouvez-vous nous dire ?
Alors déjà, je vais vraiment revenir au tout début de l'histoire, comment s'est passé, on va dire, comment l'IA a été introduit chez Harmony. En fait, ça a commencé, on va dire, par moi, déjà. C'est-à-dire, quand je dis moi, les groupes de développeurs, hein, mais l'utilisation en fait de ChatGPT. C'est-à-dire déjà vraiment le truc que tout le monde a utilisé. On part du niveau zéro aujourd'hui de l'IA. On fait un prompt ChatGPT. On demande à l'IA, en code RPG, es-tu capable de m'afficher tel ou tel fichier, de lire un fichier, de supprimer un fichier, une donnée dans un fichier, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment c'était mi-2023, fin 2023, etc. Bon, ChatGPT 3 était sorti fin 2022, et 2023, c'est ChatGPT 4, donc là, on commence à avoir un peu plus de niveau sur l'IA générative. Et justement, je l'ai testé sur des programmes, etc. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont pu voir en interne ce que ça donnait. Et l'idée était de se dire, sur le RPG, l'IA de ChatGPT, en tout cas, il est pas ouf, il est pas super. Par contre, il a quand même, en fait, il y a des bonnes idées. Il donne des bons argumentations, des bonnes idées de code, etc. Mais c'est pas au point. Donc, comment le mettre au point ? Donc la question déjà dès le début, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre au point ChatGPT ? C'est pas ChatGPT qu'il faut modifier, mais aujourd'hui il existe énormément de projets open source qu'on peut utiliser. On pense, j'en passe un français, par exemple Mistral, qui a une partie open source et qui est sur Internet et qu'on a le droit de l'utiliser, de l'entraîner. Voilà, déjà il y a cette partie-là, mais ça on les a appris au fur et à mesure. Et moi donc au début on s'est dit il faut une équipe IA et surtout des personnes motivées. Et j'ai interrogé un peu la plupart des personnes et vraiment la personne la plus motivée, elle est à ma droite, c'est Thomas. qui a répondu présent et qui a dit ah ouais moi je suis vachement intéressé, j'ai envie de faire ça. Bon, parce que en fait hein, le code RPG 3 colonné avec des indicateurs pour ceux que ça parle, voilà, ça c'était plus trop, c'était son truc, mais voilà, on va dire que
pas les go-to, pas les go-to,
voilà, pas c'est les go-to, ça, oui. C'était un peu ça. Je lui ai dit tiens, tu vas pas faire des go-to, par contre il va falloir que tu connaisses maintenant le langage avec un serpent, enfin un python, voilà. C'est go-to fini, maintenant c'est python et c'est un peu différent. Donc ce qui s'est passé, c'est que on a été amené à avoir plusieurs formations. Quand je dis formation, mais vraiment des formations assez poussées, c'est-à-dire on est parti des statistiques, donc des maths, vraiment du cœur des mathématiques, alors des stats, du machine learning, du deep learning, voilà, tout ça c'est des mots un peu qui peuvent apparaître flous, mais vraiment ce qui fait que l'IA comme ChatGPT fonctionne. Donc ça a été un long parcours du combattant dont moi j'ai lâché à la moitié hein, parce que mon cerveau l'IA, je me suis dit bon bah, stop, alors que Thomas lui non, ça a été l'inverse, il est allé jusqu'au bout et le projet, on va dire, il a commencé à prendre forme début juillet fin juin 2024, où on s'est dit voilà, là maintenant on a une machine dédiée, on a ce qu'il faut pour lancer le projet. Et à partir de là, je vais laisser la main à Thomas, puisqu'à partir de là, j'ai commencé à, on va dire, à basculer du côté beaucoup plus formation et à lui laisser la main sur l'IA. Juste noter au passage que c'est pour répondre aux besoins. Bah, l'IA il va répondre aux besoins donc d'harmonie, hein, c'est-à-dire voilà, en interne on a des projets. Bon, il y a des choses que je peux pas dire, mais j'accompagne sur cette partie-là. Moi, comme j'ai beaucoup de connaissances sur l'IBMI, j'en apprends tous les jours, et on essaye voilà de le faire apprendre à l'IA. Et donc à partir, on va dire, de début septembre, octobre, on a un data scientist qui nous a rejoint. Et là, je laisse Thomas continuer l'histoire.
C'est ça. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que courant du coup de la du moitié d'année 2024, donc juin juillet, à l'issue de nos formations, on a commencé en fait à se doter en infra suffisante pour déjà faire nos premiers tests, nos premiers calculs, et surtout en fait avoir de quoi pouvoir accueillir des modèles open source, parce que bah, voilà, le parti pris, c'est que aujourd'hui on veut utiliser ces outils comme des accélérateurs pour nos problématiques internes, et à ce titre, accélérateurs qui sont confrontés à de la data client sensible, et donc en fait qui n'a pas intérêt à se retrouver collecté. Donc déjà dans un premier temps, vraiment la problématique est le cœur du nerf de la guerre, si j'ose dire, c'est vraiment la souveraineté des données. Donc en fait, il a fallu vraiment se doter en infra pour pouvoir en fait accueillir des modèles on-premise et vraiment les cloisonner chez nous, de sorte en fait à pouvoir dans un premier temps mener nos tests, trouver nos pistes et définir les pipelines nécessaires vraiment au projet qu'on souhaite mettre en œuvre, et également en fait pouvoir permettre vraiment le réentraînement de modèles à des fins d'affinage en fait pour nos besoins, notamment justement pour la compréhension du code RPG, surtout pour la partie colonnée, qui est toujours un petit peu délicate, parce que bah voilà, les contraintes de parsing, etc., et le format un petit peu plus classique, si j'ose dire, que la majorité des langages modernes, constitue en fait un défi à part entière.
Ok, parce que bon, c'est pas vraiment dit, on le devine plus qu'autre chose, si j'ai bien compris. Le projet, c'est d'avoir un assistant IA capable d'aider dans les réflexions premières d'un projet, comme pourrait aider potentiellement à coder, comme le fait l'assistant de GitHub.
C'est ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir ouais, effectivement un agent qui viendrait vraiment seconder le développeur dans sa tâche à des fins de compréhension dans un premier temps. On ne prend pas le parti de faire un agent qui vient vraiment faire de la génération de code. Non, l'idée, c'est vraiment la compréhension de ce dernier, et surtout, en fait, venir se positionner comme un accélérateur à ce niveau-là, dans le sens où, bah voilà, on le sait, la plateforme, en fait, de par son existence et surtout son existence dans le temps, est confronté à de nombreux départs, que ce soit de développeurs en face chez nos clients, mais également de métiers. Et en fait, le souci, c'est que derrière, ça constitue en fait une grosse perte de connaissances. Et c'est d'autant plus flagrant que lorsqu'on est amené en fait à faire de la maintenance sur parfois des pans de domaine qu'on ne comprend absolument pas, à chercher vraiment la petite erreur dans une chaîne d'appel de programme, ça peut être vite fastidieux. Et en fait, l'idée, c'est justement de réduire ce temps de compréhension pour justement accélérer celui de la maintenance. Et en fait, pouvoir même, pourquoi pas par la suite, pouvoir assurer en fait un devoir de documentation sur des pans de métiers qui n'ont pas été faits en fait jusqu'à aujourd'hui.
Ok, donc c'est en quelque sorte c'est prendre le relais de là où les développeurs, via leur départ, se sont arrêtés.
C'est ça, oui.
C'est assez intéressant. Enfin, et surtout, on évite quelque part la problématique, je sais pas si c'est vraiment une problématique, plus un débat, un rêve humide de certains patrons de remplacer les développeurs par de l'IA, alors qu'on sait que au final, à l'heure actuelle, si on devait se fier qu'à l'IA, le développeur passerait plus de temps à corriger le code de l'IA qu'à faire quoi que ce soit.
C'est alors oui, clairement, on n'est pas dans cette idée. Je crois que c'est un concept qui émerge un petit peu depuis très récemment. Ça, il me semble, c'est de vibe coding, si je dis pas de bêtises.
Ça aussi, ouais, c'était effectivement, la première fois que j'en ai entendu parler, ça date d'il y a peut-être un mois, à ce moment-là.
Ouais, c'est très récent comme concept, ça date de février, si je dis pas de bêtises. On n'est pas du tout, en fait, dans cet esprit-là où vraiment on va créer, en fait, un agent, assistant pour que nos devs génèrent du code et le corrigent, absolument pas. Et d'ailleurs, l'idée, c'est absolument pas de se substituer aux développeurs, mais vraiment d'avoir un outil en fait qui viendrait accélérer sa compréhension. Et justement, toute la réflexion est autour de comment, par exemple, lui permettre d'avoir une validation humaine. Comment assurer une validation humaine la plus simple soit-elle? Comment le faire de la manière la plus efficiente et pertinente, mais vraiment en ayant l'idée d'avoir toujours le développeur en face qui est au cœur de la problématique et surtout qui est seul maître de valider ce qui a été généré ou non.
Ok, donc comment est-ce que l'assistant reste entièrement à sa place d'assistant? Jamais plus.
C'est ça, exactement, oui.
Ça, c'est énorme. Bon, encore une fois, limité par ce dont vous avez le droit de parler. Comment est-ce que vous avez pu vous assurer que dans les propositions du futur assistant, il ne reste qu'à sa place, comme ça qu'il ne soit pas là pour générer, pour aller au-delà de son rôle?
En fait, c'est un travail qui a été fait et qui est d'ailleurs toujours en cours. Et si j'ose dire, je ne pense pas que ce soit un travail qui va se terminer un jour, parce que c'est toujours une tâche qui est à améliorer. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir un cercle vertueux, dans le sens où on va avoir un assistant qui va venir générer de la documentation, un simulacre de règles par rapport à du code donné. Et par la suite, en fait, avant de l'intégrer dans une quelconque documentation ou quoi que ce soit, pouvoir mettre en fait en avant le code VS la génération, de sorte en fait à toujours avoir vraiment un processus de validation et également processus de validation qui va aussi dans le sens de la correction, dans le sens où après nous on peut également alimenter des datasets pour améliorer le modèle et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vraiment avoir vraiment ce cercle vertueux qui permet une auto-amélioration au fur et à mesure que l'outil va être utilisé, etc. Mais oui, l'idée en fait c'est vraiment de pouvoir facilement retrouver ce qui a été généré par rapport au code et en fait de le valider ou de l'infirmer.
Ok, donc ça c'est, on va dire, c'est pour le fonctionnement interne même du moteur, on va dire, de l'IA. Il y a une autre question qui me vient même deux autres qui me viennent. Commençons par le commencement. La première donc, c'est si j'en reviens à ce que disait Sylvain. Et il a raison sur ce point, l'IBMI, c'est énormément d'informatique de gestion, où donc la nécessité de connaître même le métier au moins autant que la manière de coder est au cœur du problème. Donc, comment est-ce que vous avez pu faire, si vous pouvez en parler, pour que l'IA intègre le côté métier dans la réflexion? Parce que à titre d'exemple, je me dis, l'IBM est beaucoup utilisé pour tout ce qui est assurance. Comment est-ce qu'on intègre les règles de l'assurance là-dedans?
Ça, pour le coup, on va pas trop rentrer dans le détail. Mais derrière, en fait, dans un premier temps, il y a d'une part, en fait, un premier entraînement au préalable, justement, sur des questions de pan de métier, notamment avec des datasets qui sont trouvables en ligne et de manière open source, de sorte, en fait, à spécialiser un agent sur des problématiques. Ça peut être, par exemple, la finance, l'assurance, la médecine. Et en général, en fait, c'est des datasets qui existent assez facilement. Et après, dans un second temps, il y a énormément d'améliorations par rapport justement à comment est fourni le code en entrée. Pareil, des choix de, si j'ose dire, de segmentation. Donc, comment est fourni ce qui est en entrée et qu'est-ce qu'on va lui donner exactement en entrée. Et également, en fait, de sens sémantique. Par exemple, il peut y avoir, voilà, des raccourcis, hein, qui peuvent être assez vrais, et ça notamment grâce à la logique de code que peut avoir un humain, notamment si le nommage des variables est suffisamment explicite. Ça, d'une part, ça simplifie énormément la tâche. Par exemple, on pourrait donner, je sais pas moi, on va retrouver dans du code colonné la variable nocli. Derrière, voilà, on peut facilement imaginer que ça va être numéro de client. L'association peut être très facilement faite, et d'autant plus si le contexte du code le permet en amont. Et également, on peut en fait apporter plein d'autres précisions. Par exemple, derrière, je sais pas moi, on va déclarer une table qui va utiliser X zones. Ces X zones peuvent avoir un libellé. Si le libellé des zones est correctement indiqué, ça peut déjà nous indiquer des éléments sémantiques en fait sur comment interpréter le code en entrée. Voilà, ça c'est typiquement des solutions justement pour apporter ce grain, si j'ose dire, un petit peu métier, par rapport à la compréhension technique.
Ok, donc ça c'est bon, c'est une réponse surtout par le côté technique. Mais c'était une question qui me vient, moi qui j'ai peut-être pas assez utilisé l'IA, ChatGPT, tout ça pour en tenir compte. Mais est-ce qu'on peut imaginer l'outil avoir dans une espèce de base de connaissances interne chez le client, prendre tout, on va dire toute la documentation sur le métier, les métiers qui sont exercés en son sein, et se baser là-dessus pour l'aider à faire une remise en contexte?
Alors totalement, et c'est d'ailleurs un type d'utilisation, en fait, ça s'appelle pour le coup du RAG, Retrieval Augmented Generation, si je ne me trompe pas sur l'acronyme. En fait, l'idée derrière ça, c'est d'avoir une base documentaire. Et en fait, cette base documentaire, on va la servir avec différents agents d'IA, pour le coup, effectivement. Un, pour le faire très simplement, un qui s'occupe de comprendre la demande et de rechercher le texte, enfin de rechercher ce qui est le plus pertinent dans la base de données, et un autre qui s'occupe de prendre le tout, donc les extraits les plus pertinents de la base de données plus la demande, et d'en formuler une réponse. Typiquement, on peut être dans ce genre de contexte, oui.
Ok, donc ouais, on fait intervenir tout, en quelque sorte, toutes les types de sources qu'on a sous la main pour pouvoir répondre.
Oui.
Exactement.
Faire feu de tout bois.
Oui, exactement.
Du coup, j'avais encore une question, moi, pour revenir à ce dont vous aviez, ce que vous aviez évoqué au début, qui est la souveraineté des données. Mm-hmm. Vous avez dit que pour l'instant, vous avez fait vos tests sur des machines chez vous, on-premise.
Oui.
Est-ce que dans le fonctionnement à l'heure actuelle, est-ce qu'on serait quand même sur des données hébergées toujours chez vous, ou est-ce que le client peut installer le modèle, enfin, Carl IA sur une de ces machines, garder ses données en local?
Non, l'idée dans un premier temps, c'est vraiment de faire tourner le tout en local sur nos infrastructures. On envisage potentiellement dans le futur de créer une API qui nous permettrait potentiellement à certains clients de pouvoir l'utiliser directement chez eux, mais vraiment l'idée est dans un premier temps de cloisonner le tout, et surtout parce que c'est dans un usage interne. Maintenant, si on s'aperçoit qu'effectivement il y a une vraie demande, un vrai besoin spécifique par rapport à tout ça, et que on a également possibilité de le déployer en externe. C'est quelque chose qui est absolument pas exclu, mais en ce moment-là, on est sur d'autres problématiques, notamment justement effectivement la question des données et comment fournir un modèle pertinent d'entrée de jeu pour un client donné en externe, parce que l'idée c'est pas de donner à un client un modèle qui a déjà été entraîné sur des données en interne et qui ou potentiellement en fait ça pourrait exposer de potentielles failles de sécurité, fuites de données.
Ok, donc c'est jusqu'à au moins, là tu viens de l'évoquer, jusqu'à au moins que le modèle soit suffisamment mature, la question de la commercialisation ne peut pas vraiment se poser, ne serait-ce que pour des questions de sécurité.
C'est ça, exactement, oui.
Ah, je trouve ça presque dommage, du coup, parce que là, depuis avant, ça me vend un peu du rêve, quand même.
La problématique, c'est justement toute cette question de sécurité. Et justement, aujourd'hui, les modèles, en fait, remettent en fait un petit peu au goût du jour ces problématiques. Typiquement, il y a eu beaucoup de failles avec ChatGPT, où, pour citer deux d'entre elles, en tout cas une d'entre elles, c'est vraiment sûr, dès à une époque, c'était que en lui faisant réciter un mot à l'infini, le modèle de ChatGPT le faisait. Et en fait, au bout d'un moment, petit à petit, la discussion divergeait de ce mot qui était répété N fois à des données. Sauf qu'en fait, arrivé à un certain moment, ces données, en fait, c'était littéralement ce qu'ils connaissaient et ça commençait à divulguer des numéros de téléphone d'avocats, ce genre de choses. Et typiquement, voilà, on est déjà dans du gros leak de données de la part d'un des leaders du marché. Donc, c'est assez délicat à maîtriser. Et il y a également d'autres failles. C'est que, par exemple, pour être donné l'une d'entre elles, à un moment donné, la plupart des sites internet pouvaient être faillibles typiquement de l'injection de code. Aujourd'hui, certains modèles en fait d'IA au même titre le sont, parce que tout simplement le code qu'on va lui fournir en entrée va être interprété. Et à tout hasard, si on commence à s'amuser à importer des dépendances type OS en Python et qu'on commence à exécuter des OS.rmddir, ce genre de choses, en fait, on va venir supprimer l'espace dans lequel le modèle est exécuté. Et c'est ce genre de problématique en fait qui existent et en tout cas qui sont remises au bout du jour justement avec l'IA.
Ok, donc oui, elles sont plus que simplement remises, elles deviennent encore plus sensibles.
Oui, exactement, et puis c'est pareil, il y a aussi toute la question de, voilà, aujourd'hui on travaille beaucoup avec des modèles, en tout cas la plupart des personnes connaissent les agents conversationnels type ChatGPT, donc sur ce format un peu chat template, derrière, pour fournir les réponses qu'on connaît, ChatGPT a ce qu'on appelle un prompt système, donc en fait c'est un prompt qui est caché et qui définit, si j'ose dire, voire même qui cloisonne son comportement, parce que l'idée c'est que finalement si on fait une demande sans préciser aucun contexte, derrière c'est très compliqué d'y répondre, donc là on va fournir un contexte en disant voilà, typiquement, tu es ChatGPT, tu es un agent conversationnel. À ce titre, tu peux avoir plusieurs questions, formule les réponses de telle manière et, par exemple, tu répondras toujours systématiquement en utilisant le Markdown pour mettre en forme ta réponse. Ça, déjà, c'est faire du système prompt. Et c'est définir un comportement et potentiellement, dans ce genre de comportement, on peut déjà dévoiler des méthodes de fonctionnement. Et aujourd'hui, beaucoup de modèles sont très sensibles à ne pas réciter justement le prompt qu'elles connaissent, qui encadre leur comportement. Même jusqu'à encore très récemment, ChatGPT le faisait encore dans certains cas. Et c'est extrêmement compliqué en fait à cadrer. Et derrière, c'est assez compliqué à gérer parce que au final, d'une manière un peu malheureuse, ce serait un petit peu comme donner la recette du gâteau, quoi.
Oui, oui.
Oui, voilà.
C'est une belle manière de le dire, mais oui. J'avais pas pensé comme ça. Écoutez, messieurs, moi, j'arrive au bout des questions que je m'étais notées, auxquelles je viens de penser. Sachez que, en tout cas, Carl IA m'a rendu assez curieux. Si d'aventure on devait se croiser, je pense que je demanderais une petite démonstration si vous avez le droit. Parce que avoir un assistant qui reste, on va dire, dans son rôle et qui est là non pas juste pour venir s'incruster dans mon travail, mais pour me servir de soutien, là, pour moi, on est dans le cœur de ce que peut apporter l'IA à une entreprise, au final.
Oui. Alors, en tout cas, au plaisir de pouvoir faire une démonstration si on a l'occasion. Et oui, c'est vraiment l'idée principale. Ça reste vraiment d'avoir quelque chose utilisable ou non, mais qui ne vient pas en fait empiéter sur nos process.
Merci beaucoup. Alors, on arrive maintenant sur la dernière partie du podcast, qui est le mot de la fin. Est-ce que vous avez chacun un petit message à faire passer, un petit quelque chose?
Alors, un petit message. Moi, je quitte un peu l'IA. On a parlé beaucoup d'IA. Non, en fait, je reste aussi là-dedans. Pour dire que la formation et l'IA, elle est complémentaire aussi. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire un prompt sur l'IA, etc., on est obligé de former les personnes sur ça. Et donc, voilà, ça montre à quel point cette plateforme, qui est l'IBMI, elle n'est pas morte, elle n'est pas décédée, elle n'est pas en train de revivre non plus. Non, elle est juste en train de continuer. Et grâce à l'IA, grâce aux formations, elle continuera à vivre pour toujours. Voilà mon mot de la fin.
Le renouvellement perpétuel.
Oui, voilà. Exactement. C'est pas une fin de cycle, c'est juste une évolution. Et comme le dit très bien Sylvain, cette plateforme est là pour perdurer au final. Et il y a encore toujours de belles, voire même très belles choses à pouvoir faire dessus.
Eh ben, messieurs, merci encore d'avoir répondu favorablement à l'invitation pour ce podcast. J'espère que vous avez beaucoup apprécié.
Énormément, oui.
Oui.
Quant à moi, je vais en profiter pour remercier, comme toujours, Myriam qui continue à travailler avec moi sur ce podcast, qui fait un super boulot. Hein. Je tiens d'ailleurs à préciser que c'est elle qui, à la base, a eu l'idée de ce nouveau format. Franchement, merci Myriam. Je remercie également Arcade qui continue à encadrer en quelque sorte ce podcast, à lui donner sa visibilité. Et enfin, je vais vous remercier toutes et tous. Auditeurs et auditrices, merci de continuer à écouter le podcast. N'hésitez pas à faire quelques retours pour continuer de l'améliorer. Alors, je vous dis à tous au revoir et à la prochaine.